Bonjour à tous, donc je vais vous parler de l'intensity mapping. Donc c'est le titre du séminaire que m'avait donné Françoise, qui est en anglais et j'ai gardé tel quel, alors peut-être par flemme, peut-être parce qu'en anglais c'est plus facile à dire ces deux mots, alors qu'en français on pourrait dire cartographie des fluctuations de brillance du signal, donc c'est un peu plus lourd, donc je vais garder ce mot intensity mapping. Alors j'ai vu, il va y avoir pas mal de répétitions avec ce qui a été dit auparavant, mais je pense que la répétition nuit pas à l'apprentissage. Donc je vais commencer par ce que vous connaissez certainement, qui est cette chronologie en fait de l'histoire de l'univers. Donc très brièvement, hein, vous le savez, les premiers instants de l'univers sont décrits par la théorie du Big Bang. Donc ce Big Bang, c'est l'état de l'univers très chaud et très dense, donc il y a 13,8 milliards d'années. Et à cette époque, l'univers était complètement opaque. C'est-à-dire que les photons en fait, ne pouvaient pas se propager parce qu'ils étaient diffusés en permanence sur les électrons et les protons. En fait, l'univers était une soupe de particules. Et puis, ça a duré jusqu'environ 380 000 ans après le Big Bang, où l'univers était suffisamment froid pour que les électrons et les protons se recombinent, forment les premiers atomes neutres, et alors les photons étaient libres de se propager. Et cette lumière de libération, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qu'on voit très bien, qu'on a vu très bien avec le satellite Planck dont a parlé Françoise juste avant. Après cette période, en fait, l'univers est donc composé d'atomes neutres. Et là, on pourrait dire que c'est assez ennuyeux, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. L'univers est composé d'atomes neutres, il continue de se refroidir. Jusqu'au moment où, environ 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles et les premières galaxies se forment. Ces premières étoiles et ces premières galaxies vont ioniser des bulles de gaz autour d'eux. Et ces bulles de gaz, en fait, vont croître avec l'expansion de l'univers. Elles vont se chevaucher et on va avoir plus en plus d'objets qui vont se former et on va ainsi avoir la rayonisation de l'univers, donc cette époque de rayonisation qui a lieu entre environ 1 milliard d'années et 200 millions d'années après le Big Bang. On peut aussi parler en redshift, donc environ z égale 6 à z égale 20. Cette époque de rayonisation est en fait une frontière observationnelle. C'est une transition très importante dans l'histoire de l'univers, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à observer. Et on était un peu déprimés jusqu'à, en fait, il y a environ 2 ans, où il y a eu une percée majeure qui a été faite par le satellite Planck, qui a pu mesurer ce qu'on appelle l'épaisseur optique de la rayonisation. Donc cette épaisseur optique tau, en fait, est l'intégrale sur l'histoire de l'univers de notamment la densité d'électrons. Donc la densité d'électrons nous renseigne directement sur l'ionisation de l'hydrogène. Et Planck a pu mesurer un taux de 0,05, ce qui vous dit probablement rien du tout. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est un taux qui est beaucoup plus faible que ce qui était mesuré avant par l'expérience WMAP, qui était de 0,09. Du fait de ce taux beaucoup plus faible, on peut en déduire que le décalage vers le rouge moyen de la rayonisation est environ à 7,7. Et on peut aussi en déduire que l'univers ionisé à moins de 10% a un redshift plus grand que 10. De l'autre côté, on sait par l'absorption de la raie Lyman alpha dans la ligne de visée des quasars, que la rayonisation est complète à un redshift de 6. Avec ces nouvelles observations, on sait donc aujourd'hui que le gros de la rayonisation a lieu entre redshift 6 et redshift 10. Ça veut dire qu'elle est très rapide et ça veut surtout dire qu'on a le nez dessus maintenant, c'est-à-dire qu'elle est à portée de main, on va pouvoir l'observer. Alors qu'avant, avec WMAP, la rayonisation pouvait s'étendre jusqu'à Z égale 20, où là, c'était très très difficile à observer puisque très lointain. Donc on est tout excité par ces nouveaux résultats. Donc on sait à peu près quand la rayonisation a lieu, mais on ne sait pas trop comment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont les objets qui sont responsables de la rayonisation. Ça peut être soit des populations stellaires, des étoiles, ou des trous noirs. On ne sait pas très bien quelle est la distribution en masse des étoiles dans les premières galaxies, donc quel est le flux de photons ionisants qui vont permettre la rayonisation. On ne sait pas très bien quel est le rôle des supernovas, quelle est l'efficacité de la formation d'étoiles ou encore la structure du milieu intergalactique. Si ce milieu intergalactique est très poreux, les photons vont pouvoir ioniser très rapidement. S'il est très homogène, les photons vont ioniser le milieu de façon différente. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a détecté des galaxies, donc jusqu'à des redshifts de 11, mais on se pose la question de savoir si leur population stellaire est responsable de la rayonisation. On ne sait pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit, d'après ces observations, que si la rayonisation est faite par des galaxies qui sont faibles et nombreuses, alors elle est complète à une magnitude absolue de l'ordre de moins 12. Aujourd'hui, avec le satellite Hubble, on détecte des objets à z égale 8 ayant une magnitude absolue de moins 17,5. Et avec le GWST qui sera lancé en 2021, on ira jusqu'à 10,16. Et donc avec ces instruments, on ne voit que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les grosses galaxies qui ont une contribution à la rayonisation, mais qui ne font pas le gros de la rayonisation. Donc même avec le GWST, peut-être qu'on ne sera pas capable de voir les objets qui sont responsables de la rayonisation. Donc il faut penser à une autre technique. Et c'est là où rentre en jeu l'intensity mapping. Donc j'ai fait ici un petit schéma vous représentant l'univers tel qu'il pourrait être à z égale 8, donc avec ces galaxies primordiales qui font des bulles de gaz ionisées. Et on a encore à ce redshift-là du milieu neutre qui est tracé par l'arrêt H1 à 21 cm. Et donc, pour mesurer en fait, la rayonisation, on peut mesurer les fluctuations à grande échelle de l'émission de cet arrêt à 21 cm, qui serait ici en bleu. Donc, c'est le H1 intensity mapping. C'est ce qui est fait avec LOFAR aujourd'hui, on le verra après, et ce qui sera fait avec SKA. On peut aussi avoir une autre approche, c'est que plutôt que de regarder les fluctuations de brillance dans le milieu neutre, on peut cartographier la distribution des galaxies. C'est-à-dire qu'au lieu de voir toutes les galaxies, on va regarder collectivement leur émission, mesurer leur distribution spatiale et donc mesurer les fluctuations à grande échelle de l'émission provenant d'un grand nombre de galaxies qu'on ne voit pas de façon individuelle. Donc ça, c'est ce qu'on a vu auparavant avec Françoise, ce sont les fonds diffus infrarouges et X. Mais le problème de ces fonds diffus infrarouges, c'est qu'on n'a pas accès au redshift, à la troisième dimension, donc on a du mal à interpréter nos données, parce qu'on a beaucoup de dégénérescence. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire aussi avec les raies de C+, ou les raies de CO. C'est bête qu'il n'y a pas un pointeur. Ah si, il y a un pointeur, en fait. Alors, donc, l'intensity mapping, donc, c'est qu'on va regarder des relevés de galaxies, où on va être limité par ce qu'on appelle la confusion. La confusion, c'est que on va avoir une résolution angulaire qui va être assez mauvaise, et donc on ne va pas voir toutes les galaxies individuelles, mais on va voir le signal causé par toutes ces galaxies, et on va voir les fluctuations à grande échelle ici qui suivent les fluctuations de la matière noire. Par opposition aux relevés de galaxies, donc ça c'était le lièvre et ça c'était la tortue de Françoise, donc ces relevés de galaxies où on va cartographier des petites régions du ciel avec une très grande résolution angulaire, pour laquelle on va pouvoir faire étudier les propriétés des galaxies, mais sur des petites régions. Et donc l'intensity mapping, donc vous l'aurez compris, on mesure les fluctuations de brillance en fonction de l'échelle spatiale à une fréquence donnée. On est sensible à tout, ce qui est super, parce qu'on est sensible aux sources faibles et aux milieux intergalactiques diffus, mais ce qui n'est pas non plus, ce qui aussi est compliqué parce qu'on est sensible à tout. Et l'outil de base qu'on utilise, c'est le spectre de puissance angulaire, c'est-à-dire qu'on mesure les fluctuations de brillance et on utilise ces fluctuations de brillance pour reconstruire le spectre de puissance des fluctuations de matière dans l'univers. Donc on utilise un proxy pour reconstituer les fluctuations de matière. Alors qu'est-ce qu'on observe dans ce spectre de puissance? En fait, on sait aujourd'hui que les galaxies sont dans des halos de matière noire. Et quand on regarde à grande échelle, on paramétrise la relation entre la distribution spatiale des galaxies et le champ de densité de la matière noire par un paramètre qu'on appelle le biais, B. Et quand on regarde ce regroupement en fait, des galaxies par rapport à la matière noire, on a deux composantes. On a une composante 1 halo qui va être à petite échelle et qui va nous décrire le regroupement des galaxies à l'intérieur d'un halo de matière noire. Ça va nous renseigner sur la physique de la formation des galaxies au sein des halos, et c'est un terme non linéaire. Et puis, on va avoir la composante 2 halo, qui, elle va être à grande échelle, et qui va nous tracer le regroupement des galaxies qui appartiennent aux différents halos de matière noire. Et là, c'est un terme linéaire. Et donc, quand on regarde le spectre de puissance totale, on a ce biais fois au carré, fois le spectre de puissance linéaire, puis un spectre de puissance non linéaire. Alors ça revient un petit peu à ce que vous a présenté François tout à l'heure. Donc on mesure le spectre de puissance, donc c'est la puissance du signal qu'on va mesurer en fonction de l'échelle angulaire à laquelle on regarde. Et à petite échelle, donc petit r ici, on a le terme à halo, et à grande échelle, on a le terme de halo. On a là-dessus qui vient se rajouter le bruit de poisson, donc le bruit de grenaille, qui est dû au fait que les galaxies sont des objets discrets. Et c'est un bruit blanc, c'est-à-dire qu'il va être plat dans le spectre de puissance, et on va essayer de décroître ce bruit blanc pour observer ces corrélations, un halo, deux halos, parce que c'est ça qui va vraiment nous renseigner sur la physique de la rayonisation. Alors, cet intensity mapping, donc ça fait pas mal d'années qu'on l'a fait en deux dimensions, notamment avec les fonds infrarouges dont on a parlé Françoise. Donc, ces fonds infrarouges, ça provient de l'émission cumulée de toutes les galaxies. C'est-à-dire qu'on va regarder à une fréquence donnée dans le continu, on va avoir toutes les galaxies qui émettent, on ne va pas les résoudre individuellement, on va regarder les fluctuations. Et donc, ces fluctuations vont nous renseigner sur différents processus en fonction de la longueur d'onde à laquelle on va regarder. Donc, on a deux fonds diffus infrarouges parce qu'en fait, on a deux processus d'émission. Donc, dans l'infrarouge proche, en fait, on va voir essentiellement l'émission directe des étoiles jeunes qui, au départ, est mise dans l'UV, mais qui est redshiftée dans l'infrarouge proche. Donc, quand on va regarder les fluctuations du fond infrarouge proche, on va être sensible aux objets de la rayonisation. Enfin, c'est ce qu'on cherche, en tout cas, en étudiant ce fond. Et puis, on va être aussi sensible à l'émission due à l'accrétion sur les trous noirs ou aux trous noirs primordiaux. Et puis, dans l'infrarouge lointain, là, on est au fond diffus infrarouge lointain, donc entre 60 microns et 2 mm. Là, on observe l'émission des poussières. Donc, cette émission des poussières, elle vient du fait que les étoiles, avec leur rayonnement UV, va chauffer la poussière du milieu interstellaire dans les galaxies. Cette poussière, en se refroidissant, va émettre un rayonnement dans ce domaine de longueur d'onde. Et donc, avec le fond diffus infrarouge lointain, on va tracer les galaxies qui sont actives en formation d'étoiles, mais qui sont très poussiéreuses. Alors, j'illustre ici ce phénomène d'extinction là, par les poussières. Donc, ici, on va avoir un spectre, l'émission des populations stellaires dans une galaxie qui est dominée par des étoiles jeunes dans l'UV. Et puis, quand on va ajouter de la poussière sur ce spectre, on va éteindre la partie dans l'optique et on va réémettre dans l'infrarouge lointain. Alors, ces fonds, je vais uniquement parler des fluctuations du fond diffus infrarouge proche parce que c'est lié à la rayonisation et c'est ce qui nous intéresse ici. Alors voilà des cartes, magnifiques cartes, des fluctuations du fond diffus infrarouge proche, donc on ne voit pas grand-chose, hein, c'est très vert. On voit surtout qu'il y a beaucoup de trous noirs, et en fait ces trous viennent du fait qu'il faut enlever, comme le disait Françoise, beaucoup de régions, beaucoup de sources qui sont des intrus, qui sont sur la ligne de visée. Et en fait, obtenir des cartes d'émission diffuse, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que quand on a des satellites qui font, comme Hubble, des cartes des galaxies, c'est relativement facile. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui nous gêne à grande échelle, on n'a pas de problème de niveau zéro, on n'a pas de problème de lumière diffusée. Détecter des objets ponctuels, c'est quelque chose qui est assez facile. Quand on va vouloir mesurer de l'émission diffuse, là, c'est très, très compliqué. Il faut très bien contrôler tout ce qui est les problèmes de lumière diffusée. Il faut très bien contrôler l'étalonnage des matrices de détecteurs des différents pixels entre eux. Il faut enlever donc tous les intrus qu'on peut avoir sur la ligne de visée à bas Z, donc des galaxies, mais aussi des étoiles qui sont dans notre galaxie. Donc on va utiliser pour cela des catalogues extérieurs, faire des coupures en flux. Et puis, il y a tous les avant-plans astrophysiques qui vont être sur la ligne de visée. Donc dans ce domaine de longueur d'onde-là, on a la lumière zodiacale, qui est la lumière dans notre système solaire. Puis on a les émissions galactiques du milieu interstellaire de notre galaxie. Puis on a les galaxies qui ne sont pas très loin de nous et qui sont en dessous de la coupure en flux qu'on a utilisée, etc., etc. Donc il faut faire un tas de nettoyage pour réussir à mesurer le spectre de puissance. Sachant qu'en plus, là, il y a une autre difficulté, c'est que la mesure du spectre de puissance n'aime pas les trous. Or, ici, on est dominé par les trous, donc il faut vraiment développer des techniques très particulières pour réussir à mesurer les spectres de puissance. Et une partie des résultats qui sont publiés, des fois, on se pose la question de savoir si une grande partie du signal à grande échelle ne vient pas de la corrélation entre les trous. Alors voilà le spectre de puissance publié par Zemkov sur obtenu avec une fusée donc autour de 1 et 2 microns. Donc on a ici le spectre de puissance en fonction de l'échelle spatiale. Ici on a petite échelle, ici on a grande échelle. On a le shot noise, donc le bruit de grenaille qui est ici. Donc je vous ai dit que c'était un bruit plat en spectre de puissance, mais là il est tracé en L plus 1, donc c'est multiplié par L au carré, donc c'est pour ça qu'il n'est pas plat. Donc on a aussi le bruit de poisson, on a ce qu'on attend ici comme signal provenant du 1 halo et du 2 halo, et vous voyez que les mesures ici en rouge et noir, eh ben, ça ne suit pas du tout ce qu'on attend. D'accord ? On a un excès énorme ici, et cet excès en fait pose aujourd'hui beaucoup de questions. On ne comprend pas très bien d'où il vient. Donc, évidemment, on aimerait que cet excès vienne du signal des premières étoiles et des galaxies primordiales. Ça, ce serait quand même vraiment chouette. Mais le signal qu'on prédit des objets à l'aube cosmique pendant la rayonisation est bien, bien plus faible que cet excès. Donc, pour faire cet excès de ces objets-là, on est obligé de tirer les paramètres vers le haut pour tout, et c'est fort peu probable. Il y a une autre explication qui est que ce serait de la lumière intra-halo. C'est-à-dire que des étoiles pourraient être éjectées de leur galaxie dans le milieu intra-halo du fait d'interactions de marée. Et donc ce sont des étoiles orphelines qui se promènent dans les halos. Et ça, ça pourrait marcher, sauf qu'on a aussi détecté en corrélation croisée un signal assez fort entre le fond diffus infrarouge proche et les rayons X. Et donc cette lumière intra-halo pourrait rendre compte de l'excès seulement si une fraction substantielle des étoiles orphelines qui se promènent sont des binaires X ou des pulsars. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on observe aujourd'hui dans les galaxies. Une autre hypothèse, c'est qu'on pourrait voir de l'accrétion sur les trous noirs en général, ou même les trous noirs primordiaux. Alors, donc, cette hypothèse-là a été modélisée pour voir si ça pouvait expliquer la corrélation croisée. Mais là encore, le modèle produit une densité de masse accrétée sur les trous noirs qui est bien supérieure à la valeur qu'on observe aujourd'hui. Donc, je vous conseille cet article si vous voulez une revue récente. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On ne sait pas d'où vient cet excès. Et en fait, ça patauge un peu. Et ça patauge parce qu'en fait, il est très difficile, quand on a comme ça des fluctuations d'intensité, de démêler les contributions relatives des sources qui sont à bas et grand Z. On a beaucoup de dégénérescence et on n'arrive pas, en fait, à isoler le signal à grand Z parce qu'on a devant le nez le signal à bas Z qui nous contamine. Et donc, pour ça, on a besoin du redshift. Donc, c'est là où on va faire de l'intensity mapping en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on va observer une raie. Donc, vous savez qu'avec une raie, on peut avoir le redshift. Ça, c'est par exemple un spectre d'absorption d'une étoile. Si cette étoile est dans une galaxie à grand Z, on va avoir une raie qui va être décalée vers le rouge. Et à partir de ce décalage, puisqu'on connaît la fréquence d'émission au repos de la raie, à partir de cette mesure de différence de longueur d'onde, on en déduit le redshift. Très pratique avec une raie. Donc, l'intensity mapping en 3D, ça consiste donc en ça. Donc, Françoise vous a déjà présenté cette figure. Donc, on va garder la dimension en redshift ici, en utilisant une raie dont on connaît la fréquence d'émission au repos. Et donc là, c'est fait avec la raie CO. Donc ça, c'est ce qu'on verrait en projetant tout dans le plan sur la ligne de visée, comme on avait tout à l'heure avec le fond d'intensité. Et maintenant, avec la raie, on peut faire la tomographie, c'est-à-dire avoir l'histoire en fonction du redshift, en fonction de la fréquence, en fait. Dès qu'on observe en fonction de la fréquence, on a le redshift. Alors, donc, cet intensity mapping en 3D, donc, c'est exactement comme celle en 2D. On fait des fluctuations de brillance, sauf que cette fois, on fait ça avec une résolution spectrale, donc on a un spectre, pour avoir l'information en redshift. Et on peut faire des grandes régions du ciel, c'est vraiment économique, plusieurs degrés carrés, dans une grande bande de fréquences et donc dans une grande gamme de redshift. C'est-à-dire qu'on va couvrir des volumes d'univers qui sont absolument gigantesques et qui sont bien plus grands que tout ce que pourrait faire le JWST et ses relevés qui regardent des petites régions du ciel. Donc ce sont des relevés limités par la confusion, c'est-à-dire qu'on a une résolution angulaire qui n'est pas bonne, mais c'est ce qu'on cherche. Et donc on fait de la science des grandes structures. Et c'est similaire en principe au relevé spectroscopique des galaxies, mais c'est plus rapide et surtout c'est non biaisé, c'est-à-dire qu'on ramasse tout le signal. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut choisir une raie. Quels sont les critères ? Donc, d'abord, il faut une raie forte, parce que le signal d'intensity mapping est faible, il va être pollué, donc il faut vraiment une raie forte. Après, il faut regarder les considérations. Est-ce que c'est plus facile d'observer au sol ou de l'espace, antenne unique versus interférométrie, etc. On va voir qu'aujourd'hui, la plupart des manips sont au sol parce que c'est une science qui est naissante et on a besoin de montrer la puissance de cette méthode au sol avant d'envoyer des télescopes qui coûtent très cher dans l'espace. Et puis, il faut que la raie qu'on choisisse ait un potentiel scientifique bien identifié. Alors, dans les raies qu'on peut choisir, donc dans l'UV optique proche infrarouge, il y a la raie Lyman alpha, H-alpha, H-bêta, O3. Dans la raie, dans l'infrarouge lointain millimétrique radio, là, il y a 21 cm COC+, azote, carbone neutre et aussi oxygène ionisé deux fois. Et dans l'infrarouge moyen, il y a la raie d'hydrogène moléculaire. Alors aujourd'hui, en pratique, pour les raies fortes qu'on utilise et qu'on comprend dans les modèles à peu près, donc on va utiliser la raie Lyman alpha, la raie H1 à 25 cm, la raie de CO et la raie de C+. Donc je vais expliquer brièvement la physique de ces raies. Donc sur la raie 25 cm, j'ai vu que vous avez eu pas mal de cours déjà là-dessus. Donc c'est la transition atomique entre les deux sous-niveaux de la structure hyperfine du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène. C'est une raie qui trace les milieux neutres et les nuages de gaz dense. Donc en émission, on voit le milieu neutre dans les galaxies, donc relativement à bas Z, comme l'expliquait Françoise tout à l'heure. Et puis on voit aussi cette raie en absorption le long de lignes de visée des quasars, ce qui nous permet de tracer le gaz neutre. Le H1, on ne se cache pas, c'est la sonde la plus directe de l'époque de rayonisation. D'accord ? Donc c'est la meilleure sonde pour l'époque de rayonisation. Après, ça ne donne pas forcément des informations sur les sources qui contribuent à la rayonisation. Ou ça donne des informations indirectes. L'autre raie qu'on va utiliser, c'est la raie de CO. Donc c'est une molécule diatomique qui est polaire. Et donc ce moment dipolaire électrique permanent, il va tourner à une vitesse angulaire constante de sorte que la molécule rayonne en fonction de la fréquence de rotation. On peut définir l'énergie cinétique de rotation qui dépend du nombre quantique J. Et donc, à partir de la raie du fondamental, CO1,0, on sait exactement où vont tomber toutes les autres raies du spectre CO. Alors, les intensités relatives entre les différents niveaux dépendent de la température et de la densité du milieu qu'on va observer. Donc ici, je vous montre l'intensité relative des différents niveaux, donc en fonction de J, à une température donnée pour des densités qui augmentent. Donc plus la densité augmente, plus on excite les niveaux supérieurs. Et puis là, c'est à une densité donnée avec la température qui augmente. Pareil, quand la température augmente, on va de plus en plus exciter donc les niveaux supérieurs. Et ça, ça vous montre la même chose, mais pour des mesures sur des galaxies. Donc on voit déjà que chaque galaxie va avoir son spectre un petit peu différent. La Voie lactée va piquer à J égale 4, alors que pour des galaxies plus actives en formation d'étoiles, on va piquer plutôt à J égale 6. Et puis pour des quasars, on peut piquer jusqu'à des J 13, 14, assez haut. Donc la forme de cette distribution spectrale ici de l'émission des raies de CO va nous donner directement les caractéristiques physiques du milieu qu'on va observer, moyennant certaines hypothèses. Donc la raie Lyman-alpha, donc, c'est le changement du niveau d'énergie de l'électron de l'hydrogène, donc de N égale 2 à N égale 1. Et un cas d'intérêt pour la cosmologie, c'est l'absorption, notamment avec la forêt Lyman-alpha. Vous aurez un cours dessus dans quelques mois, ou à la fin du cycle, là. Et les absorptions et les émissions arrivent très fréquemment sur le Lyman-alpha, et ça nous renseigne directement sur la présence d'hydrogène et d'électrons libres dans l'univers. Donc cette raie, en fait, elle provient principalement du voisinage des étoiles massives et jeunes, et elle est souvent en association avec l'accrétion d'une grande quantité de matière. Donc c'est une raie idéale pour détecter les galaxies jeunes, parce que les galaxies jeunes à grand Z, elles accrètent énormément de matière le long de leur filament. Il y a beaucoup de processus différents qui structurent le spectre et la distribution spatiale du Lyman-alpha, donc ça donne accès à une multitude de propriétés physiques des galaxies. Donc ça, c'est très bien. Sauf que tout ça rend l'interprétation des observations très, très difficile. Parce qu'en fait, Lyman-alpha donc, est une raie de résonance, c'est-à-dire qu'elle diffuse sur les atomes d'hydrogène. Et donc, quand elle va sortir, quand nous, on va voir le rayonnement Lyman-alpha, il peut provenir de régions très éloignées de la source d'émission. C'est-à-dire que le photon a voyagé, il a traversé des régions qui ont des propriétés différentes, et c'est très difficile de remonter à l'origine de l'émission du photon Lyman-alpha. Donc, parmi les inconnus, on a la fraction d'échappement des photons Lyman-alpha, l'effet de la poussière qui va éteindre une partie de la raie, et puis l'impact du transfert au travers du milieu intergalactique, comment le photon va pouvoir se propager dans le milieu intergalactique. Donc c'est une raie qui est très difficile à interpréter. Enfin, on a la raie de C+. Donc la raie de C+ est très abondant dans le milieu interstellaire des galaxies puisque le potentiel d'ionisation du carbone est assez faible, et C+ est une raie de refroidissement la plus importante dans le milieu interstellaire des galaxies. Donc elle émet à 158 microns, et c'est une raie qui est facilement excitée, notamment via les collisions. Donc le C+, il est présent partout dans les galaxies. Donc c'est une des raies les plus brillantes dans le spectre des galaxies, et c'est un très bon traceur de la formation d'étoiles à très grand décalage vers le rouge. Donc on a des premières observations, notamment avec ALMA, donc ça c'est une observation de la raie de C+, dans des galaxies qui sont environ à Z égale 5, 6, Ça, c'est une détection, vous voyez, très brillante, parce que c'est une galaxie très poussiéreuse qui forme énormément d'étoiles. Ça, ce sont des détections qui sont beaucoup plus difficiles à faire, parce que c'est des galaxies qui émettent très fortement en UV, qui sont très peu métalliques, moins poussiéreuses, et donc les détections sont plus faibles. Ce qui est bien avec C+, c'est que c'est un traceur non biaisé par la présence de poussière, ce qui n'est pas le cas du Lyman-alpha, du H-alpha, etc. Et le C+ a aussi le très bon goût d'être redshifté dans les bandes atmosphériques qui sont visibles du sol pour des redshifts plus grands que 4.5, donc directement à l'époque de la rayonisation. Alors, quelle science on veut faire avec l'intensity mapping? Donc, on veut évidemment tracer l'époque de rayonisation. Donc ça, je pense que ça vous a été montré par le séminaire de Benoît Semelin il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une simulation qui vous montre la température de brillance de la raie à 21 cm, donc en fonction du redshift. Donc, ici, Z égale 15, Z égale 6. Donc, ici, on est complètement rayonisé. Et puis, en fonction de la résolution angulaire, on voit qu'on arrive à voir l'évolution globale du signal, mais on voit qu'à grand Z, ici notamment, on est complètement dominé par le bruit. Et donc, ça va être très difficile de faire la tomographie à partir du signal H1. Au-delà de Z égale 10. Alors avec l'arrêt de notamment C+, CO, Lyman-alpha, on peut, avec l'intensity mapping, donc avoir des caractéristiques physiques moyennes du milieu interstellaire des galaxies distantes, ce qui est très difficile à obtenir par les instruments actuels galaxie par galaxie. Il faut énormément de temps pour chaque galaxie pour avoir accès aux propriétés du milieu interstellaire des galaxies. Donc on peut comme ça avoir accès au contenu en gaz, la masse H1. On peut en déduire la densité de formation d'étoiles dans l'univers, qui est vraiment une observation caractéristique clé pour comprendre la cosmologie aujourd'hui, la formation des galaxies. Aujourd'hui, donc, dans l'univers distant, cette densité du taux de formation d'étoiles est uniquement obtenue à partir des observations UV. Donc elles sont éteintes. On ne sait pas corriger très bien de l'extinction par la poussière, par exemple à Z égale 6, puisqu'on ne connaît pas la contribution de la poussière. Donc on mesure très mal cette densité de formation du taux de formation d'étoiles au-delà de Z égale 4. Donc on peut utiliser le CO et le C+, comme un proxy pour tracer la formation d'étoiles qui, eux, ne sont pas sensibles à cette extinction par la poussière. On peut également observer avec l'intensity mapping les phases diffuses et faiblement lumineuses du milieu intergalactique. C'est ce que vous racontez tout à l'heure, Françoise, avec les filaments, qui est vraiment difficile à caractériser et à détecter. On peut ainsi déterminer la densité, l'évolution et la structuration du milieu intergalactique. Évidemment, on peut avoir la relation de tous ces traceurs baryoniques la masse des galaxies et la masse des halos de matière noire, et puis toutes ces corrélations croisées qu'on peut faire dans tous les sens, qui nous permettent de s'affranchir des effets instrumentaux, de s'affranchir des avant-plans et vraiment d'avoir de la science commune entre tous ces relevés. Donc la science clé pour chaque ray est un petit peu différente. Donc H1, c'est la rayonisation. Et puis on peut aller même beaucoup plus loin avec l'aube cosmique jusqu'à Z égale 30, on espère. Et puis ces oscillations acoustiques baryoniques à bas Z pour caractériser donc, l'énergie noire. Avec le CO, c'est plutôt l'évolution des galaxies. On cherche à comprendre ce qui alimente la formation des étoiles, donc à Z égale 2,3. Le Lyman alpha, c'est la rayonisation, le milieu intergalactique, la formation et l'évolution des galaxies, et avec le C+, la rayonisation et la formation et l'évolution des galaxies. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais donc, Françoise, vous en a aussi un petit peu parlé, c'est qu'il faut interpréter et modéliser ce qu'on observe. Surtout, actuellement, on n'a pas vraiment de données, donc tout ce qu'on fait, c'est beaucoup de modélisation et de la prédiction. Et pour ça, on peut avoir deux approches quand on modélise un phénomène astrophysique. Donc, on peut avoir une approche phénoménologique qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser des relations empiriques, des relations d'échelle. Par exemple, on va relier le taux de formation d'étoiles au halo, aux masses des halos de matière noire, l'intensité d'une raie au taux de formation d'étoiles. Donc, c'est des modèles qui sont assez simples, qui sont faciles à mettre en œuvre et facilement rejouables. Le problème, c'est que ces relations d'échelle, elles sont basées sur des recettes variées en fonction des publications et elles donnent des amplitudes très différentes sur le spectre de puissance. Ces relations d'échelle, généralement, sont mesurées pour une population de galaxies données, un redshift donné, et on extrapole ça dans tous les sens pour les autres populations, les autres redshifts, donc ça, on ne sait pas trop si notre extrapolation est valable. Et puis, la puissance de l'intensity mapping, justement, c'est d'aller sonder des objets qui sont trop faibles que ceux qu'on voit dans les surveys qui sont les plus brillants. Or, les relations d'échelle que l'on obtient vont être obtenues pour ces objets les plus brillants. Donc, on ne sait pas si elles s'appliquent aussi aux objets faibles. De l'autre côté, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées en utilisant les simulations numériques et les modèles semi-analytiques pour lesquels on va avoir beaucoup de détails sur les processus physiques qui vont gouverner la formation des étoiles, par exemple. Et puis, on va être capable de prédire simultanément l'émission de plusieurs raies en fonction du redshift. Le problème, c'est que même dans ces approches-là, il y a de nombreuses hypothèses sur la physique des objets. Et puis, c'est très exigeant en termes de calcul et ce n'est pas flexible. Donc, quand on a le résultat d'une simulation comme ça de matière noire, on ne peut pas la rejouer 50 000 fois. Donc, il faut combiner un peu les deux approches pour essayer d'avancer. Alors, je vous donne un exemple ici sur si on veut prédire le spectre de puissance d'un ray C+ à grand Z avec l'approche empirique. Prenons juste ça. Donc, on a plusieurs façons de faire ça. Donc on prend des simulations de matière noire sur lesquelles on va peindre l'évolution des baryons et on va mettre des relations d'échelle qui vont relier par exemple la masse des halos de matière noire à la masse des galaxies, des étoiles dans les galaxies, au taux de formation d'étoiles, à la luminosité de la raie de C+. Donc ça c'est un type d'approche dans l'approche phénoménologique. On peut aussi utiliser des prescriptions du regroupement, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure sur le modèle 1 halo, 2 halo, et puis, encore une fois, mettre par-dessus ça des relations d'échelle pour obtenir le spectre de puissance C+. On peut aussi partir du fond diffus infrarouge, puisqu'on sait qu'on a une relation très forte entre le C+, et la luminosité infrarouge des objets. Donc, on se dit que quand on part du modèle de l'observation des fluctuations du fond diffus infrarouge, on n'a que cette relation-là à mettre, et donc on fait peut-être moins d'erreurs. Et quand on fait ces différentes approches, donc chacun fait son travail du mieux qu'il peut, on arrive à la fin avec des spectres de puissance pendant la rayonisation de C+, qui sont différents d'un facteur 10. D'accord ? Bon. Donc il faut aller mesurer ce signal pour vraiment commencer à contraindre quelque chose. Et ça, c'est une autre illustration. Donc à partir de ces modèles, on peut prédire les fonctions de luminosité, c'est-à-dire que c'est des fonctions qui vont nous donner le nombre d'objets dans un volume donné en fonction de leur luminosité. Donc ici pour l'arrêt de CO, ici pour l'arrêt de C+. Et donc on voit ici qu'il y a tout un tas de modèles, et en fait il y a autant de prédictions différentes que de modèles. Et puis pour l'arrêt de C+, on a ici une prédiction à Z égale 6 et une autre ici. Donc pareil, des modèles différents donnent vraiment des prédictions très différentes. Donc il faut aller chercher ce signal. Pour ça, on n'est pas en reste, puisque le paysage expérimental est assez vaste. On a beaucoup d'expériences d'intensity mapping qui sont en cours ou prévues à court terme. Donc ça, c'est un diagramme qui vous pave un peu en fonction du redshift ici et la résolution angulaire, les différentes expériences, donc les expériences H1 à OZ pour la rayonisation, les expériences H1 à bas Z pour les oscillations baryoniques acoustiques, le C+, ici, qui est plutôt au-delà de Z égale 4, et le CO, qui est ici plutôt en dessous de Z égale 2, 3, donc dans l'univers plus proche. Donc voici ici des différentes expériences. Donc celles-là, c'est vraiment celles qui sont en cours, qui sont financées et qui vont voir le ciel ou qui sont en train d'observer. Et on en est vraiment à la première étape aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre la faisabilité et le potentiel scientifique de ces grands relevés. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de prédictions, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas beaucoup de mesures. Et puis, toutes ces expériences fournissent aussi des bancs d'essai pour les technologies et ça permet d'élaborer des stratégies observationnelles. Comme c'est un domaine nouveau, il faut qu'on réfléchisse à la meilleure façon d'observer notre signal. Alors, il y a quelques premiers résultats. Donc, Françoise en a déjà parlé, donc je vais passer plus vite que prévu. Donc, il y a des détections de la corrélation croisée entre le H1 et les relevés de galaxies, donc à Z égale 0,8. Il y a des détections de l'arête C+, à Z égale 2 et 3,2, c'est ce que vous a montré Françoise donc avec Planck. Le problème, c'est que quand on regarde le signal qui est mesuré, il peut être très bien reproduit soit par le fond diffus infrarouge et la contribution de C+, ou par le fond diffus infrarouge seul, ça a la même probabilité. Donc ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais une détection. Et puis, il y a aussi des corrélations croisées entre la Riemann alpha et les quasars, où il y a une détection qui est faite proche du quasar, mais avec une amplitude qui est très très élevée. Et cette amplitude voudrait dire que 97% de l'émission Lyman-alpha qui est dans l'univers aujourd'hui à ses redshifts n'est pas détectée dans les relevés des émetteurs Lyman-alpha qu'on observe. Donc ça, c'est très bizarre. Et puis, il n'y a pas de signal non plus à grand Z. Donc ça voudrait dire que le signal serait probablement local au quasar. Et en fait, ce n'est pas du signal qui vient, par exemple, des filaments. Côté C+, donc il y a alors ce n'est pas vraiment de l'intensity mapping, parce que de l'intensity mapping, c'est vraiment des relevés très très grande échelle. Mais il y a des relevés non biaisés qui sont faits, c'est-à-dire qu'on va faire des relevés spectroscopiques, on ne va pas regarder galaxie par galaxie, on va regarder un champ et puis prendre tout ce qui vient dedans. Donc ce relevé-là, il s'appelle ALMA Aspects, donc il couvre seulement une arc-minute carrée, donc c'est vraiment tout tout petit, et c'est déjà 40 heures de temps ALMA. Donc il y a des scans en bande 3 pour voir le CO et en bande 6 pour voir le C+, à Z égale entre 6 et 8. Et donc dans ce relevé qui est complètement aveugle, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas des galaxies que l'on connaît, mais on va chercher des émetteurs, il y a 14 candidats, donc c'est ces candidats-là d'émission de C+, mais un petit calcul de probabilité nous dit qu'il y a 60% de faux candidats dans ces... parce que... bon, enfin voilà... Et donc il y a un plus grand programme qui est en cours, mais seulement sur 4 arc-minutes carrées. Donc bon, je vous invite à suivre ces résultats. Une autre détection, c'est à 3 sigma, donc ça aussi c'est pareil, ça a été montré par François, c'est les fluctuations de CO à Z égale 2 points, enfin Z égale 3 à peu près. Donc ici c'est le spectre de puissance en fonction du nombre d'ondes. Grande échelle ici, petite échelle ici, vous voyez la mesure, c'est pas ça. Mais quand on somme tous les points, en fait, il y a une détection qui sort du bruit, presque. Et donc, ça permet déjà de mettre des contraintes sur des modèles, parce que ça, c'est la détection. Donc, on voit que ça permet d'enlever tout un tas de modèles, de faire un petit peu le ménage. Mais on voit aussi que si certains modèles sont vrais, comme par exemple celui-là, il y a encore du chemin à faire pour essayer d'abaisser les mesures jusqu'à pouvoir mesurer, en fait, ces modèles. Et côté H1, donc là, ça commence à sortir. Il y a notamment un grand projet qui est fait avec LOFAR, qui est un interféro qui a pour but notamment d'observer le H1 pendant l'époque de rayonisation. Donc il y a un très grand key project qui est fait pour ça. Et donc ça, c'est le spectre de puissance, donc en fonction de l'échelle spatiale, pareil. Ça, c'était des limites supérieures qui étaient obtenues en 2017. Et puis aujourd'hui, les limites supérieures sont là. Donc ça a été publié en 2018. Et donc on a vraiment pu abaisser ici les limites supérieures d'un ordre de grandeur en analysant 5 fois plus de données. Donc aujourd'hui, en fait, il y a 60 heures de données qui ont été analysées dans ce champ-là, NCP. Donc ça représente seulement 3,5% des données. Donc, et si on extrapole cette mesure-là de limite supérieure aux 1700 heures qui sont consacrées à ce relevé, on devrait pouvoir, pour la première fois, détecter le signal de l'époque de réionisation. Alors ces limites supérieures-là, donc c'est tout nouveau, et on commence tout juste à pouvoir tester des modèles de l'époque de réionisation et de l'aube cosmique. Alors ça ne donne pas énormément de contraintes, mais ça donne quand même des limites inférieures sur le chauffage du milieu intergalactique, donc par les rayons X, pendant l'aube cosmique. Donc ça commence à arriver. Et je vous invite à regarder ces références pour d'autres limites supérieures. Alors, en France, on travaille aussi sur une expérience qui s'appelle Concerto, qui a pour but de détecter donc, le signal d'intensity mapping pendant la rayonisation en utilisant l'arrêt de C+, donc l'arrêt de C+ à Z plus grand que 4,5. Donc c'est un projet qui est l'idée ici en France au laboratoire d'astrophysique de Marseille, et l'instrument est construit à l'Institut Néel à Grenoble. L'idée ici, donc c'est, je vous représente un spectre de galaxies. On a l'arrêt de C+ ici, qui est l'arrêt la plus brillante. Ça, c'était le continu. Et puis, donc, quand on observe à grand redshift, donc entre 4,5 ou 10, ce spectre est redshifté ici. Et cela, on commence à atteindre des bandes qui sont observables depuis le sol. Donc, l'idée, c'est qu'on observe le C+ au-delà de 4,5, qui est le plus petit de ce qu'on peut faire. Parce qu'avant, il y a trop de vapeur d'eau dans l'atmosphère. On ne peut pas observer cet arrêt de C+. Alors cet instrument, en fait, il est assez novateur parce qu'il est basé sur des nouveaux détecteurs qui ont été mis au point pour la caméra NICA2, qui était installée sur le télescope de 30 mètres de l'IRAM. Donc ce sont des détecteurs à inductance cinétique. Donc je vous montre ici à quoi ressemble ce genre de matrice. Pour Concerto, on construit des matrices d'environ 2000 pixels, et on a un champ de vue qui est assez grand, qui est plus grand que 15 arcminutes. La difficulté aussi vient du fait qu'il faut refroidir ces pixels à 150 millica, et pour cela on utilise un cryostat à dilution hélium-3 et hélium-4, et ce cryostat qui a été inventé à l'Institut Néel est très bien pour la manip qu'on veut faire parce qu'il travaille en circuit fermé, c'est-à-dire qu'il est capable de travailler continuellement, ce qui est très important pour, vous allez voir, l'endroit où on va mettre cet instrument. Donc on a deux bandes de fréquences, une bande basse fréquence et une bande plus haute fréquence, avec un chevauchement important entre les deux pour essayer de comprendre les effets systématiques. Et ça nous amène à pouvoir détecter le C+, de Z égale 4,5, jusqu'à Z égale très très grand si on va à 125 GHz, mais on perdra le signal bien avant. Donc ça c'est le plan focal, donc c'est la matrice sur laquelle on va recevoir le signal. Maintenant il faut faire un spectre. Pour faire un spectre, on utilise un interféromètre de Martin Puplet, qui est la même chose qu'un interféromètre de Michelson, mais avec un miroir qui est mobile. Donc on mesure des interférogrammes. On a une résolution spectrale qui n'est pas très bonne, c'est-à-dire que des gens qui font de la spectroscopie des objets fins dans la galaxie ont des résolutions spectrales énormes. Nous, pour l'intensity mapping, les résolutions spectrales dont on a besoin sont assez modestes. Donc R200 à 300, ce qui nous donne un intervalle de fréquence d'1,5 giga. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre continuellement les interférogrammes à une fréquence de quelques hertz. C'est-à-dire que le miroir qu'on a, il va bouger super vite. Et ça, c'est requis pour enlever le bruit de ciel. Et donc, on fait ça pour être plus rapide que le bruit de ciel. Et cette expérience-là est possible uniquement parce qu'on a su mettre au point ces détecteurs KIDS qui ont une constante de temps qui est très rapide, donc qui réagissent instantanément au signal qu'ils reçoivent. Et donc on peut faire comme ça, on peut faire des mesures en faisant varier notre miroir très très rapidement. Alors pour chaque pixel de la matrice, on va avoir au moins un spectre chaque seconde, ce qui donne des quantités de données phénoménales. Ce qui est le propre de l'intensity mapping, par exemple avec le H1, c'est qu'on a des quantités de données qui sont très très grandes, et donc on rentre dans l'ère du big data, ce qui pose des problèmes pour la réduction des données. Alors, pour mesurer ce C+, depuis le sol, je vous ai dit, c'est super, ça tombe dans les fenêtres atmosphériques, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'il faut aller dans des endroits très, 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 très secs, ce qui existe dans le désert d'Atacama, donc à une altitude de 5100 mètres, ici. Donc, c'est le télescope APEX, qui est juste à côté de l'interféromètre d'ALMA, qui est ici. C'est-à-dire que la fenêtre du bureau d'APEX, on a vu sur l'interféromètre, c'est pas mal. Et donc, on va installer Concerto, donc sur ce télescope-là, en janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit d'observer? Évidemment, on veut mesurer le spectre de puissance. Vous l'avez compris, l'intensity mapping, on mesure des spectres de puissance. Donc ça, ce sont des prédictions, donc à z égale 5 et à z égale 7. Ici, trois couleurs qui sont des prédictions qu'on va dire pessimistes, parce que je vous ai dit, le spectre de puissance de C+, il varie d'un facteur 10 en fonction des modèles, donc on a essayé d'être assez conservatif. Donc c'est des prédictions pessimistes ou optimistes. La prédiction pessimiste, elle nous donne un taux de formation d'étoiles qui est au niveau de ce qu'on observe avec les galaxies dans l'UV. Et puis la prédiction optimiste est plutôt ce qu'on observerait en extrapolant le fond diffus infrarouge. Donc on ne sait pas trop où on sera, probablement entre les deux. Mais on voit ici qu'on va être capable de mesurer le shot noise. Et puis ce qu'on veut vraiment mesurer, c'est cet écart ici au shot noise qui est le regroupement. Donc avec ça, on veut pouvoir déterminer la densité du taux de formation d'étoiles à grand Z. Donc ici, je vous représente la densité de formation d'étoiles en fonction du redshift. Ça, c'est ce qui provient de l'émission des étoiles, donc directement de l'UV. Et on sait aujourd'hui que la densité de formation stellaire dans l'univers est complètement dominée par ce qu'on observe dans l'infrarouge, ce qui est réémis par la poussière, jusqu'à Z égale 3, et on ne sait pas du tout ce qui se passe après. Donc avec Concerto, on va vraiment vouloir mesurer ici cette densité de formation d'étoiles à grand Z, et puis voir à quel moment la partie infrarouge va croiser l'UV, en fait. Parce qu'on s'attend à un moment à ce qu'il y ait moins de poussière dans les galaxies et que l'UV domine sur la formation d'étoiles. Avec Concerto, on va pouvoir aussi déterminer la relation entre la luminosité de C+ et les halos de matière noire, ce qui nous donnera la masse typique des halos de matière noire qui forment des galaxies à grand Z, ce qui est un paramètre clé pour la modélisation. Et puis, on va pouvoir déterminer les fonctions de luminosité. Et avec tout ça, on pense pouvoir apporter notre pièce à la contribution des galaxies à la rayonisation et surtout la structuration de la matière baryonique pendant l'époque de rayonisation. Alors, donc c'est pas tout. Donc avec Concerto, donc l'objectif principal, c'est de voir l'arrêt de C+. Donc autour de l'arrêt de C+, il y a d'autres raies qui sont plus faibles, d'azote et d'oxygène. Et donc ça, c'est l'émission des raies en fonction de la fréquence. Et puis on a tout ce peigne ici des raies de CO. Alors vous imaginez quand on redshift, donc on regarde le C+ à Z égale 6, donc ici, avec ses copines à côté, là. Et puis le C+, donc quand on va être à plus grand redshift, ça va se décaler vers la gauche. Et puis le CO, quand il va y avoir des galaxies à plus grand redshift, ça va aussi se décaler vers la gauche, mais pas de la même façon, en fonction du redshift. Et donc on va avoir dans notre survey à la fois l'arrêt de C+, par exemple à Z égale 6, et puis si on regarde à Z égale 2, eh bien, on aura toutes les raies de CO devant. Alors ça va nous embêter pour chercher notre signal de C+, donc on est en train de mettre au point des stratégies pour enlever ce signal de CO, mais le CO en tant que tel, c'est aussi une science très importante pour Concerto, parce qu'en faisant la corrélation croisée avec les relevés de galaxies, qui sont très nombreux jusqu'à Z égale 2, on va pouvoir déterminer directement le contenu en gaz des galaxies, ce qui est très difficile à faire de manière individuelle sur chaque galaxie. Et puis, puisque un redshift donné, vous voyez, on a un redshift de 2 ici, on a plusieurs raies de CO qui vont tomber dans la bande de Concerto, on va pouvoir faire des corrélations croisées entre les raies de CO pour déterminer le regroupement des galaxies qu'on ne détecte pas de façon individuelle. Les autres choses qu'on va pouvoir faire, c'est des corrélations croisées encore dans Concerto. Donc, je vous ai dit, là, on a la raie de C+, mais on a les copines à côté, donc on peut faire de la corrélation croisée entre tout le monde. Et ça nous renseigne sur vraiment les conditions du milieu interstellaire dans les galaxies lointaines. Alors évidemment, c'est des conditions moyennes, puisqu'on ne voit pas les galaxies individuellement, mais ça donne au moins des premiers chiffres. Donc on pourra comme ça, avec les raies d'azote ici, déterminer la densité d'électrons du milieu ionisé. En faisant la corrélation croisée du C+ et du N+, on va pouvoir déterminer la quantité de C+ qui provient du milieu ionisé, ce qui est pareil un contaminant, puisque nous, on veut C+ pour tracer la formation des étoiles, pas le milieu ionisé dans les galaxies. Et puis, en faisant la corrélation croisée de C+ et O1, on va pouvoir déterminer les champs de radiation. Les champs de radiation, c'est important parce que ça donne un peu la population stellaire. Alors ça, c'est des prédictions de ce qu'on va pouvoir mesurer, donc ce n'est pas terrible. Vous voyez les grandes barres d'erreur, mais on va quand même pouvoir mesurer facilement le shot noise qui va déjà nous donner tout un tas de renseignements. Et puis, on peut faire des corrélations croisées avec des jeux de données extérieurs, par exemple des galaxies distantes pour avoir une autre estimation du taux de formation d'étoiles dans les galaxies à grand Z, et notamment contraindre l'enrichissement en poussière dans l'univers. Évidemment, on va vouloir faire la corrélation croisée avec le H1. Donc les fluctuations H1 et C+ proviennent de régions qui sont mutuellement exclusives, hein, puisque le C+ provient de la partie ionisée, alors que le H1 de la partie neutre. Et donc on a une très forte anticorrélation à grande échelle. Et en mesurant cette corrélation croisée entre le H1 et C+, on peut vraiment contraindre la physique pendant l'époque de leur ionisation, par exemple les tailles des bulles de gaz ionisées et la fraction moyenne d'ionisation. Donc je représente ici, pareil, des simulations sur ce que l'on pourrait observer. Donc ici, c'est toutes les galaxies, ici tous les halos de matière noire. On a mis dessus l'émission C+, sur ces galaxies. Donc ici, ce sont les grands redshifts, ici les bas redshifts. Donc évidemment, plus on va à bas redshift, plus on a d'émissions de C+. Et puis ça, c'est des modèles, c'est le H1, pardon, c'est fluctuation de brillance du H1. Dans un modèle où la rayonisation est faite par des objets de faible masse, c'est-à-dire des galaxies, ou la rayonisation est faite par les objets de très grande masse, genre les quasars. Donc on voit que quand c'est fait par des objets de faible masse, on a beaucoup plus de petites bulles. Par contre, quand c'est fait par les quasars, c'est des bulles qui sont moins nombreuses, mais plus grandes. Donc ça, ce sont des prédictions donc, du spectre de puissance de C+, en fonction du redshift de 6 à 9, du spectre de puissance de du H1, entre 6 et 9. Donc pour deux expériences, LOFAR ici en orange clair et SCA en orange foncé. Donc vous voyez, les barres d'erreur sont très grandes. Et ça, c'est la prédiction de la corrélation croisée. Donc là, c'est pareil, ça va être très très dur. Vous voyez, pour une manip comme Concerto de faire ça. Donc on va pouvoir peut-être détecter quelque chose ici à Z égale 6 et Z égale 7, mais après, on est complètement dans le bruit. Et donc, pour pouvoir mesurer ce signal, en fait, il faut faire une manip de deuxième génération. Alors, on n'a pas encore fait la première, qu'on pense déjà à la deuxième génération. Où là, on aurait un champ de vue beaucoup plus grand, on pourrait observer beaucoup plus longtemps, donc on aurait un spectre de puissance qui serait beaucoup mieux mesuré. Et là, on arriverait à mesurer un signal de corrélation croisée entre le C+ et H1 qui vraiment sortirait du bruit. Et ça nous permettrait d'obtenir la distribution en masse des halos qui participent à la rayonisation, donc vraiment contraindre les sources de la rayonisation, et de mesurer aussi le nombre de photoionisants qui est produit par les halos. Voilà. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, l'intensity mapping, ça donne vraiment de nouvelles perspectives sur l'évolution de l'univers à bas Z et sur l'époque de la rayonisation et l'aube cosmique. C'est un domaine émergent, on a peu de mesures, mais ça devrait changer radicalement avant la fin de la décennie parce qu'il y a de nombreuses expériences en cours ou prévues et il y a des efforts considérables qui sont faits sur aussi bien la planification des observations, enfin les stratégies observationnelles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour enlever les avant-plans, pour ne pas être sensible aux contaminations, etc. Donc beaucoup de développement de méthodes pour analyser les données, beaucoup d'études aussi sur les implications pour l'astrophysique et la cosmologie. En fait, la communauté mondiale est croissante dans ces différents aspects de l'intensity mapping. Mais il y a vraiment de très, très nombreux challenges. Donc, un des challenges, c'est le volume des données, hein, comme je vous le disais. Donc, par exemple, LOFAR, pour son projet Epoch of Rayonization, là, ça produit 50 terabytes par nuit. Donc, à la fin, il y a beaucoup de pinta. Et quand il faut processer tout ça pour le pipeline de réduction des données, c'est vraiment très compliqué. Le traitement des données, en général, est très, très difficile parce que maîtriser tout ce qu'on fait dans l'émission diffuse, ça implique d'aller très, très loin dans l'analyse des données. Il y a beaucoup de nuisances. Des problèmes de séparation de composantes. Hein, je vous ai montré, par exemple, le C+, qui est contaminé par CO, mais il y a des contaminations par notre galaxie, etc. Et puis, des problèmes de modélisation et d'interprétation. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de papier sur la modélisation et l'interprétation. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on commence à attraper du signal pour faire un petit peu de ménage dans tout ça. Donc, restez à l'écoute. Et les 10 prochaines années risquent d'être prometteuses. Donc, je peux revenir dans 10 ans vous faire un séminaire pour vous dire où est-ce qu'on en sera. Merci.